Quand j'étais jeune chrétien, il y a une question qui me taraudait. Pourquoi est-ce que je ne suis pas parfait? Pourquoi est-ce que je pêche toujours? Pourquoi est-ce que je suis toujours accablé par un sentiment de faute? Pourquoi est-ce que mes progrès me semblent si nuls? Il m'a fallu du temps avant de trouver des réponses. Parce que ce n'est pas une réponse qui se fait en une phrase ou qu'on comprend très très vite. Mais au fur et à mesure que Dieu nous éclaire, on progresse et on trouve des éléments de réponse à cette question. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un devoir. Les enfants sur l'école du dimanche, quelque part nous aussi, la fin de cette prédication, elle va vous donner un devoir, un petit devoir, une méditation pour cette semaine. Et c'est là que je voulais aller et je voudrais juste prendre le temps de prier courtement avant la prédication. Je vous invite à courber la tête et à vous joindre à moi. Père éternel, merci parce que nous vivons dans un pays où parler de ta parole, prêcher ta parole, se fait encore de manière libre. Et nous te prions, Seigneur, aujourd'hui, pour te remercier de cette grâce que tu nous fais. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas cette grâce, et qui vivent autre chose, un autre contexte, mais qui vivent d'autres grâces, d'une autre façon. Nous te prions aussi pour nos enfants et pour ceux qui leur apportent ton évangile. Nous te prions que très tôt, Seigneur, tu puisses leur faire grâce à eux aussi d'être à toi. Amen. Ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de joie aujourd'hui. Incroyable, hein? Il y a beaucoup de sujets de réjouissance, de joie dans la vie. On va en prendre quelques exemples. Votre petite fille vous dit, « Papa, tu sais, moi, j'ai donné mon cœur à Jésus. » Je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'ai fondu. C'est trop mignon, on a envie d'entendre ça. Votre fille va se marier avec un gars solide, ancré dans la parole, et vous dites, « Je n'ai pas de crainte. » Je la laisse aller sans crainte. J'ai confiance dans cet homme-là, j'ai confiance dans ma fille. Ils vont servir le Seigneur. Vous recevez un nouveau véhicule. Ah, on est moins tracassé, moins ennuyé. On n'a pas peur de tourner la clé le matin et qu'elle ne démarre pas. On est content quand on reçoit un nouveau véhicule. Peut-être que vous allez signer un nouveau contrat de travail. Parfois, on attend longtemps. Et quand on l'a, enfin, ce contrat, on est content parce que ça participe à notre joie, ça participe à ce que tous les jours, on soit un peu moins anxieux. Il y a aussi des joies un peu plus simples. Partager un repas entre amis ou en famille, c'est sans doute le cas juste après. Vous allez vous retrouver en famille, vous allez partager un repas, vous allez voir les petits-enfants, les cousins, les cousines, peut-être que vos enfants vont revenir à la maison. Il y aura des rires, il y aura des blagues, des bonnes discussions. Ça aussi, ça apporte de la joie. Ou encore, simplement, une petite balade le soir, quand il fait beau, quand il fait moche comme il y a 2 jours, on n'a pas envie de sortir. Mais quand il fait comme ça, on a envie de prendre la poussette, parce qu'on a des enfants, ou si on n'a pas d'enfants, peu importe, on sort, on promène, et on constate la nature que Dieu a créée. Moi, je suis toujours émerveillé quand je vois le ciel le soir. Je me dis, waouh, Dieu, quel artiste! Et ça me rend toujours joyeux de voir cette nature, ça me rappelle vraiment le coup de pinceau de Dieu. Il y a aussi des joies plus triviales. Pour les footeux, moi, quand je vois le PSG perdre, je suis joyeux. Mais vendredi, j'étais aussi à Louvain et je regardais le match des Diables Rouges, les U21, donc le Diable Rouge de demain, et ils ont gagné face à l'Autriche. J'étais content aussi pour eux. Et puis hier soir, j'étais content aussi parce qu'on a gagné aux États-Unis. C'est plus trivial, mais ça reste de la joie aussi. Tous ces exemples, avec la petite blague mise à part, nous montrent qu'on expérimente de la joie à différents niveaux, de différentes façons et pour différents sujets. Notez bien que si votre joie lors du mariage de votre fille ou votre joie lors d'une victoire de votre équipe de foot est la même, ce n'est pas normal. À ce moment-là, vous venez consulter les anciens après, ce n'est pas logique que ce soit le cas. Logiquement, il y en a un qui devrait supplanter l'autre. Et j'aimerais lire deux textes avec vous aujourd'hui, parce que le sujet n'est pas tant la joie, mais plutôt son absence. Il y a tellement de sujets de réjouissance, et pourtant, on peut perdre une certaine joie. Et quand on perd une certaine joie, elle nous guide à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Le premier texte nous mettra dans le contexte, vers le second texte vers lequel nous irons. Ce sont des textes bien connus, je pense, mais qui est toujours, toujours réjouissant, réconfortant pour moi. C'est toujours nécessaire de me rappeler cela. 2 Samuel 11, pour le premier texte, je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles. 2 Samuel, c'est facile, c'est après 1 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. Pour le contexte, et je vais lire tout le chapitre. 2 Samuel chapitre 11, et je lis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, « C'est Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David envoya dire à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Alors David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche, ainsi qu'Israël et Juda, habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri à la pointe du combat et retirez-vous en arrière, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes voyants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hittite, mourut aussi. Joab envoya un rapport à David sur tout ce qui s'était passé dans le combat, et il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi les détails du combat, si la fureur du roi s'élève et qu'il te dise « Pourquoi êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille? Qui as tué Abimélec, fils de Yeroutchébec? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit. Et à son arrivée, il fit un rapport à David sur tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David, « Ces hommes ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et il en tomba parmi tes serviteurs. Et ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. » David dit au messager, « Tu parleras ainsi à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, fortifie-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle accomplit les rites funèbres pour son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Je crois que c'est un passage qu'on connaît bien. Si vous avez eu la chance de fréquenter l'école du dimanche, sans doute vous l'avez déjà entendu arriver vers 11 ou 12 ans. Une histoire sordide. Et je voudrais juste utiliser ce contexte pour aller ensuite dans les psaumes. Regardons un petit peu à David. David est oisif. Il s'ennuie. Il aurait dû aller en bataille. Il aurait dû accompagner ses troupes, mais il reste tranquillement chez lui. Et comme il s'ennuie, il est créatif. Il se balade du haut de son balcon et il voit une femme. Et il va successivement se rendre coupable d'une série de fautes. La convoitise, l'adultère, la manipulation par son autorité pour faire venir à lui Bathsheba ou Uri, par l'enivrement qu'il va imposer à Uri, et aussi par le cynisme en envoyant Uri avec cet ordre de se faire lui-même tuer. Meurtre avec préméditation, duplicité. Le réquisitoire contre David, il est facile. Et David fait naturellement ce que nous ferions tous. Il cherche à cacher sa faute. Il cherche à garder la face, à ce que son image soit sauf. David ne veut pas être pris à défaut. Je crois qu'on déteste tous ça. Les politiques, d'ailleurs, n'ont pas vraiment changé. David était roi. Quand un politique se fait prendre aujourd'hui, il n'y en a pas trop non plus. Dans le chapitre suivant, on voit que le prophète Nathan va venir pour confondre David. Et David reconnaît sa faute. Tout ce passage est saisissant parce qu'on mesure à quel point ce que David fait est dégueulasse. Et en même temps, au chapitre 12, il se fait confondre et la vitesse à laquelle il reconnaît ses fautes, sans se cacher, c'est dingue, avoir mis tant d'efforts pour cacher sa faute, jusqu'à tuer un homme, et pourtant, devant Dieu, la reconnaître aussi vite. Ça valait bien la peine de tuer Uri. Et ce qui m'a toujours saisi, c'est aussi la vitesse à laquelle il est pardonné. David reconnaît sa faute, Dieu te pardonne. C'est sur la même ligne, dans le même verset, la même phrase. Incroyable. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou après autant de culpabilité de pouvoir être si facilement pardonné. Est-ce que ce Dieu que nous adorons est fou? Certainement oui. On nous parle de la folie de la croix. C'est certainement cela. Cela nous indique surtout ici à quel point Dieu aime, à quel point son amour est capable d'harmoniser sa justice. Ces deux attributs de Dieu, deux faces d'une même pièce, qu'il faut absolument qu'ils s'harmonisent. Parce que si la justice de Dieu s'effectue, David ne peut pas tenir. David doit mourir. Mais par amour, il est pardonné ici, c'est ce que l'on voit. Et cette aisance dans le pardon de Dieu est tellement déconcertante pour David qu'il va nous écrire un psaume pour relater ce qu'il vit, pour relater ce qu'il ressent, pour relater à quel point il se sent appesanti par sa faute et aussi quelque part par ce pardon. Deux raisons nous sont exposées finalement pour ce pardon si facile a priori, malgré les fautes de David. C'est d'abord que Dieu est Dieu et on ne peut pas attendre qu'il pardonne comme nous sommes capables de pardonner, parce qu'il est Dieu. Mais aussi parce que David reconnaît sa faute. Si vous avez été victime d'injustice dans votre vie, quelle qu'elle soit, que la personne qui a orchestré cette injustice reconnaisse la faute est nécessaire à ce que la victime puisse cheminer à la fois dans un chemin de pardon, mais aussi de restauration. Et de la même façon, pour la personne qui est coupable, qui est responsable, dire sa faute, la reconnaître, c'est aussi se mettre sur une étape de pardon et de restauration, mais dans l'autre perspective. Dieu n'a pas changé, je pense que vous le savez cela. Et si Dieu a pardonné David de manière aussi aisée, de manière aussi déconcertante, il le fait aussi pour nous aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est, mais est-ce que David a accepté, lui, aussi facilement le pardon que Dieu le lui a offert? La réponse est non. Et on peut ouvrir nos Bibles et aller dans le psaume 51, le psaume que David a rédigé, alors que Nathan était venu le confondre. On a beaucoup de lectures, je sais que c'est peut-être pas habituel, mais c'est toute l'idée d'avoir vraiment ce contexte pour avoir toute la sensibilité de David alors qu'il rédige ce psaume. Psaume 51, je vais lire les 14 premiers versets. Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. « Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David, même s'il a entendu de la bouche de Nathan que Dieu le pardonnait, doit encore accepter, cheminer, vivre sur ce chemin du pardon. Et sans doute vous le savez par votre expérience, que le pardon, en fonction de la gravité de la faute subie, prend plus ou moins de temps à pouvoir être vécu, à pouvoir être offert, mais aussi à pouvoir être vécu si on doit le recevoir. Et David est dans ce cas-là. Il reçoit le pardon pour ses fautes. Et quelles fautes ! On l'a bien lu. Les chefs d'accusation contre lui sont lourds, sont pesants. La société aujourd'hui attendrait qu'un tel homme, sans négociation possible, soit simplement enfermé, qu'il paie sa dette à la société. Et David va nous indiquer la raison pour laquelle il demeure dans la difficulté de pleinement vivre le pardon. Il doit retrouver quelque chose qui a été perdu. Et c'est la clé pour nous aujourd'hui. Si Dieu l'a pardonné tout de suite, alors David, il est pardonné, c'est acté. Il est réellement et juridiquement pardonné devant Dieu. David est justifié, sa faute. Et pardonner, oublier. Mais David, lui, a du mal à accepter cela. Il le dit, son péché est constamment devant lui. Le souvenir de tout ce qu'il a pu produire pour satisfaire son appétit sexuel, sa convoitise, le hante et lui fait peur. En français, on a une expression pour ça. Oh, je sens mes vieux démons me rappeler. David voit ses fautes. Il voit Bathsheba. Et elle lui rappelle par sa présence qu'il a fait tuer son époux, qu'il a tenté avant de l'enivrer, de le corrompre. Et on peut admirer Uri, qui est le bonhomme dans l'histoire, qui est sage et qui se refuse même le privilège, alors qu'il est en campagne, de passer une nuit avec son épouse pour être à égalité avec ses frères d'armes. Quand on lit ce texte en 2 Samuel, on a l'impression que l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas trop David, mais plutôt Uri. Et pourtant, c'est David que Dieu va appeler un homme selon son cœur. David a constamment son péché devant lui. Et en plus de cela, il a ouvert une porte dont les conséquences vont être terribles pour lui et pour sa famille. Quand on continue de Samuel 12, à partir du verset 10 et même suivant, chapitre 13, Amnon, son fils, va violer Tamar, sa fille, donc sa sœur, la sœur d'Amnon. Un peu plus loin encore, Absalom va préparer pendant 2 ans sa vengeance et tuer Amnon, son frère, qui avait violé sa sœur. Joab va tuer Absalom et Salomon fera tuer Adonia et Joab un peu plus tard encore. Tout ça à cause d'une aventure. Au tout départ de toutes ces fautes, de tous ces meurtres, de tous ces drames au sein d'une même famille, il y a une convoitise. Et pourtant, malgré tout ça, Dieu a pardonné David. David a été pardonné de Dieu. Mais il chemine, il doit vivre ce pardon. Et il doit vivre ce pardon en prenant ses pertes. Parce que toutes les conséquences que son péché a ouvert vont être là et il va les vivre. Et sans doute chacune de ses fautes dans sa famille lui rappellera sa propre faute. Et pourtant, il devra continuer à cheminer en sachant qu'il est pardonné et responsable. La raison pour laquelle David demeure dans l'incapacité de vivre pleinement le salut de Dieu, c'est qu'il y était depuis longtemps déjà insensible, apathique. C'est le titre que je voudrais donner à cette prédication. L'apathie du salut. Être apathique, c'est le fait de ne rien ressentir, qu'un sujet ne nous produise pas l'émoi nécessaire. Un peu comme un vieux couple, disons, et le monsieur n'a plus de regard pour son épouse, elle ne lui fait plus rien. C'est un peu cela l'idée. On est apathique, insensible. Et si on transpose cela au salut, David était devenu comme insensible à son salut, insensible, sans émotion vis-à-vis de ce que Dieu lui offrait. Comme si le salut de Dieu était cette épouse négligée, peu aimée, voire plus aimée. C'est quelque chose de moderne, on entend ça beaucoup parfois. Ah écoute, je pense qu'on devrait divorcer parce que je ne t'aime plus. Oui, mais tu t'es engagé. Aimer, ce n'est pas qu'une question de sensibilité. C'est un choix fort qu'on a posé. Et Dieu a posé un choix fort avec David, pour David et pour chacun d'entre nous. Et il va le lui rappeler. David demande à Dieu de lui rendre cette joie qu'il n'éprouvait plus. Verset 14. Je voudrais le relire simplement. « Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. » S'il l'éprouvait encore, cette joie du salut, pourquoi la lui rendre? C'est pas que David l'a perdue. Perdue, ça pourrait faire croire qu'il l'a juste égarée, qu'il va la retrouver, comme ses clés de voiture. C'est plutôt qu'il l'a négligée, au point qu'il est presque, et là c'est moi qui extrapole, à l'abandon. Perdre implique que je ne sois pas forcément responsable. Ça m'arrive d'égarer des choses à la maison. J'ai oublié où je les ai mises, mais je les cherche. Alors que quand je néglige quelque chose, je le mets à un endroit, je sais où il est, mais je ne veux plus y aller, ou je n'y vais plus trop parce que je n'ai pas trop envie. C'est moi qui suis responsable de négliger la chose. Et ici, la responsabilité de David est engagée. Ce n'est pas une perte indépendante de sa volonté, c'est sa responsabilité d'avoir négligé le salut, d'avoir négligé la présence et les promesses de Dieu pour sa vie. Pour David, la source de sa joie était plutôt dans cette magnifique femme en train de prendre un bain qu'il pouvait guetter depuis son balcon, la convoiter et puis user de sa position pour la faire venir à lui, pour profiter avec elle d'un court moment de joie pour combien de malheurs. David nous indique quelque part ici, à travers son exemple, un symptôme qui est commun à chacun d'entre nous, à tous les chrétiens qui vont encore pécher. David, dans des mesures variables avec nous, est apathique vis-à-vis de son salut. Il ne le considère pas assez, il ne le valorise pas assez, il ne le met pas assez devant ses yeux. Il met Dieu de côté. À la question que je me posais, comment se fait-il que je sois encore aussi nul, que je n'atteigne pas ce que je voudrais atteindre en termes de sainteté, de sanctification? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que je pêche toujours? Un des éléments de réponse que j'ai trouvé, c'est celui-ci. C'est que je ne valorise pas encore assez ce que Dieu a fait pour moi. Je ne valorise pas encore assez le salut de Dieu. Je ne valorise pas encore assez ses promesses pour moi. Et quand je me néglige spirituellement, quand je me néglige moi-même dans ce que je dois faire, David aurait dû être en guerre, au front, mais il préfère rester chez lui, oisif. Et la créativité naît dans l'ennui. Même pas de bol, on est pécheur. Et on est créatif dans le péché. David a réuni toutes les conditions pour passer à l'acte, il va pécher. Parce qu'il est oisif, il ne fait pas ce qu'il devrait faire et qu'il néglige la présence de Dieu dans sa vie et ses promesses. Et il passe à l'acte et il commet faute après faute, comme si l'une après les autres, ces couches de faute pouvaient oblitérer toutes celles d'avant. Son souhait, c'est qu'en tuant Uri, personne ne sache ce qu'il a fait. Et pourtant, Nathan, envoyé par Dieu, va le confondre. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que l'on fasse, le devoir que je vais vous donner, il va dans ce sens-là, c'est que nous nous disposions devant Dieu au regard de ce que David a vécu, en nous introspectant. Est-ce que moi aussi, je suis capable de pécher encore? Est-ce que, ben oui, en fait, je le constate déjà hier, alors peut-être qu'il faudrait que je valorise beaucoup plus le dépôt que Dieu m'a donné, le dépôt qui a été acquis par Jésus-Christ à la croix. Sans doute que ce salut que je connais, je le connais là, je le connais aussi ici, mais est-ce qu'ici, il est encore assez présent? Si je reprends les exemples du tout début, est-ce que la joie, quand je repense à mon salut, c'est la joie d'un match de foot, comme il y en a 15 sur l'année, 100 sur l'année que je vais regarder, ou est-ce que c'est la joie d'un moment unique, comme le mariage de ma fille, ou mon propre mariage? Quand je pense au salut, quel type de joie est-ce que je ressens? C'est peut-être un indicateur pour vous, pour mesurer, tiens, est-ce que je ne devrais pas plus valoriser cela? Qu'est-ce qui fait concurrence à ce salut dans ma vie? Dans la prière, je veux vous inviter cette semaine à vous exposer, à exposer vos fautes à Dieu, à se confesser et à dire à Dieu, pas seulement pardonne-moi, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois encore chasser? Est-ce que comme David, j'ai des couches qui cachent d'autres choses? Je voudrais le savoir, je voudrais te les présenter, je voudrais en être quitte, je voudrais avancer. David prie, et c'est en cela qu'on peut dire que son chemin de pardon est compliqué et que ça prend du temps. Il réclame plusieurs fois par divers verbes, « Lave-moi, purifie-moi, efface toutes mes fautes !» Et il les répète parce qu'il sait que c'est nécessaire, parce que même s'il sait qu'il est pardonné, il doit vivre ce pardon. Nous-mêmes, quand on chemine dans la foi avant de prendre le baptême, avant de faire savoir au monde que nous sommes sauvés, que nous l'avons compris, il y a un cheminement pour que ces vérités soient les nôtres, pour que ce ne soient pas juste des mots écrits dans la parole de Dieu, mais que ce soit aussi des choses qui soient écrites dans mon cœur, des choses que je vis. Lave-moi, purifie-moi, efface toutes mes fautes. Nous pouvons prier la même chose, nous devons prier la même chose chaque jour. Peut-être tu as du mal à ouvrir ta bouche. Peut-être que tu as peur du regard des autres. Tu as peur peut-être de t'exprimer, d'exprimer tes fautes, de les confesser à un frère ou une sœur. Et pourtant, il y a une clé là. Si Nathan ne vient pas confondre David, ce serait-il confesser à Dieu? On ne peut pas extrapoler parce que l'histoire, elle est celle-là. Mais si Nathan ne vient pas le confondre, et si David, face à la confrontation, ne répond pas tout de suite avec la bonne réponse, qu'est-ce qu'il attend? Mais il craint suffisamment Dieu pour donner tout de suite la bonne réponse. Comme si en un instant, il se rendait compte, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, cet homme, c'est moi. C'est moi, cet homme que tu dis, Nathan. Je reconnais ma faute. Il ne demande pas pardon. C'est Dieu qui lui dit, Dieu te pardonne par l'intermédiaire de Nathan. Ça nous relance encore à ce verset dans Romains. Dieu témoigne son amour en cela qu'il n'a pas attendu que nous soyons meilleur, que nous allions vers lui, mais au contraire, c'est alors que nous étions encore pécheurs qu'il est mort pour nous, injuste, impie. Tu as du mal à ouvrir ta bouche pour prier, pour confesser. Ne crains pas les hommes, ne crains pas de te confesser. On n'a pas de curé ici, c'est pas ce genre de confession dont je parle. Et le fait de pouvoir exprimer, verbaliser à un frère ou une sœur de confiance les fautes qui nous pèsent et qui nous accablent, permet, comme David, de dire à quelqu'un qui connaît Dieu, ça c'est ma faute, je voudrais qu'on prie ensemble pour cheminer dans le pardon. Donnez le droit à quelqu'un que vous estimez au regard de la parole de Dieu pour vous accompagner dans ce processus de pardon, de réparation. John Piper commentait ce verset et il dit ceci, je l'ai agrémenté en anglais, je vous dirai quand je sors de la citation. John Piper dit ceci à propos de ce psaume. Il n'y a pas un seul mot à propos de la sexualité dans ce psaume, ni aucun mot sur le meurtre, ni sur le mensonge. C'est assez bluffant. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous rappelons nos propres fautes. Mais Dieu ici ne rappelle pas ses fautes à David. David les connaît déjà. La culpabilité que porte David est déjà en soi une pédagogie. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, que vous ressentez la culpabilité, gloire à Dieu si elle donne lieu à la repentance. C'est Dieu qui travaille. Si elle vous enferme dans le silence et dans la honte, c'est l'ennemi qui travaille. Et il faudrait oser en parler, oser confesser. Je continue la citation. Pourtant, tout a commencé avec le sexe. Enfin, est-ce réellement le cas ? Non. Freud pense que tout commence avec le sexe. Ah, tous mes problèmes, tout ce que je vis, les problèmes avec ma femme, les relations avec mes parents, avec mes frères, j'arrive pas à garder une copine plus de X temps, j'arrive pas à trouver quelqu'un pour me marier, tous mes problèmes sont liés à ma sexualité dans l'enfance. Ça, c'est ce que Freud nous dit. Mais John Piper nous dit, non, Freud se trompe, il ne s'agit pas du problème, comme si tout était enraciné en nous. La Bible ne voit pas les choses comme cela. L'abus du magnifique cadeau qu'est la sexualité est un symptôme du problème, de la maladie, mais pas la maladie elle-même. La maladie elle-même, Michael nous l'a rappelé, c'est le péché. Alors dans le péché, il y a plein de choses, mais c'est ultimement ça le problème. Le péché sexuel ou les diverses expressions du péché dans l'histoire que l'on a lue dans 2 Samuel, de David, de Bathsheba, il y en a plein des péchés. Mais tous sont péchés. C'est ça la maladie. Les autres sont des expressions de la maladie. C'est pourquoi le psaume 51 ici, ne mentionne pas du tout la sexualité ou les autres péchés de David. Quand vous voulez être guéri d'un problème, vous parlez des symptômes, c'est ce qu'on a lu premièrement, mais ensuite, vous voulez une solution, vous voulez qu'on guérisse la cause. Si vous avez la grippe, vous avez de la toux, c'est un symptôme. Vous avez de la fièvre, c'est un symptôme. Mais si on ne traite pas le virus et qu'on ne traite que les conséquences, ça ne va vous servir à rien. Le virus va rester, vous allez diminuer les conséquences peut-être, mais le virus va rester et vous continuerez à être malade. Dieu vise toujours la cause du problème et pas les problèmes. Il veut nous guérir de ce qui cause la maladie et pas des effets de la maladie. John Piper continue. Nous pensons à tort que le point central de ce texte correspond au péché sexuel de David. Le point central, c'est « Rends-moi la joie de mon salut ». Parce que c'est la clé quand nous considérons avec suffisamment de valeur ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il nous donne, alors cela constitue une richesse que nous avons. Et quand nous avons un patrimoine, nous faisons en sorte de bien le gérer, de bien le garder. Et obéir à Dieu en refusant le péché correspond à un acte de bonne gestion, de bonne maintenance de ce que Dieu a mis en nous. Nous nous gérons nous-mêmes pour son royaume. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Je sors de la citation ici. Rends-moi la joie de ton salut parce que quand cette joie s'estompe, je clique sur des sites pornographiques. Quand cette joie s'estompe, je considère mon voisinage peut-être un peu autrement et c'est pas bien de les voir comme ça. Quand cette joie s'estompe, j'éprouve de l'attirance pour une autre femme ou pour un autre homme ou pour tout à fait autre chose que toi. Quand cette joie s'estompe encore et encore, je me rends coupable de sacrifier la joie de ton salut, de celui que tu m'as acquis, de celui que tu me donnes. Je le sacrifie sur l'autel de ma satisfaction. Et Dieu, qu'elle est courte, qu'elle est éphémère, ma satisfaction. Chaque péché, vu de l'extérieur, est symptomatique de l'absence de cette joie du salut. Et le psalmiste sait comment lutter. C'est là votre devoir. Quand on lit la fin de ce psaume, à partir du verset 15 et suivant, le psalmiste va nous donner des conseils. Il va nous dire ce qu'il fait, ce qu'il veut chérir pour que la joie du salut soit manifeste dans sa vie, pour que ainsi, ce que Dieu a placé en lui, ainsi que le pardon qu'il a reçu puisse être manifeste. Quand quelqu'un est pardonné et qu'il vit son pardon, cela se voit, notamment dans le fait qu'il peut lui-même accorder ce pardon, mais aussi qu'il vive quelque chose et que sa vie témoigne de la réalité qu'il est pardonné. Et nous, quand la joie de notre salut diminue même à notre insu, sans crier gare, sans qu'on en soit conscient, quel genre de péché vient nous aguicher, nous tenter? Qu'est-ce qui entre en concurrence avec Dieu dans notre vie? Est-ce que, comme l'église d'Éphèse, nous avons abandonné notre premier amour? Et si oui, pourquoi ou pour qui? Tout cela pointe dans une direction. Nous faisons attention à ne pas perdre la joie de notre salut. Nous voulons mettre de l'énergie, nous employer à le chérir comme une richesse, plus que nos salaires, plus que nos enfants, plus que notre mariage. Parce que si cela est à la bonne place, si je chéris mon salut, si je chéris tout ce que Dieu a pour moi dans ses promesses, dans ses commandements, alors, inévitablement, tout le reste sera à la bonne place. Je chérirai mon épouse et mon mariage. Je chérirai mes enfants et je voudrais leur apporter tout ce que je peux apporter dans les limites de ce qui est possible, mais surtout à l'aide de la parole de Dieu. Si on devait définir ce que c'est la pâtie du salut, le fait de perdre la joie du salut, vous devriez retenir ceci. Perdre la joie de son salut, c'est devenir insensible à l'évangile, indifférent aux promesses de Dieu et notamment à la vie éternelle. Parce que ça devient comme une considération des choses de ce monde comme supérieures à ce qui est éternel, alors que ces choses ne le sont pas. Le salut constitue alors une moins grande joie que tout ce qui nous est accessible aujourd'hui et maintenant. Et dans une culture actuelle où tout va vite et où tout nous est accessible aussi rapidement qu'on le désire, voyez les enfants, ils sont tout doucement habitués à cela, à ce que tout vienne vite, quand on n'a plus la patience d'attendre, de cheminer dans le pardon, de nous introspecter, de prendre ce temps-là, quand l'immédiateté vient quelque part nous corrompre, toutes ces joies qui sont immédiatement disponibles constituent de plus en plus une idole à combattre, parce qu'elles sont en directe opposition avec la joie du salut qu'on doit considérer tous les jours de notre vie. Et tous les jours, c'est vachement long, alors qu'il y a des choses qui sont disponibles tout de suite et qui me satisfont immédiatement. Quand on pense à cela, on se dit, mais quelle ironie pour David, qui a fait tapis de tout ce qu'il avait pour une aventure. Et il a même engagé des choses qu'il ignorait encore. Tamar, la vie d'Absalom, la vie d'Amnon, etc., etc. Alors je ne sais pas pour vous quel genre d'aventure peut se présenter et constituer une concurrence pour cette joie du salut. Mais je voudrais vous inviter simplement à réfléchir, à prier, à méditer la fin du psaume 51 ou le psaume entier, revenir dessus pour axer votre réflexion, votre méditation cette semaine sur ce salut, ce cadeau si magnifique qu'il devrait nous encourager à refuser toutes les fautes qui sont devant nous parce qu'on ignore en plus quelles autres fautes elles cachent dans leur sillage. Et David l'a expérimenté durement. La bonne question à se poser, c'est celle-ci, et c'est là que je terminerai. Qu'est-ce qui te fait te réjouir de ton salut? Quand est-ce que tu te réjouis de ton salut? Qu'est-ce qui te ramène à cette joie-là? Est-ce que tu considères, par exemple, le souvenir de ton baptême égal ou mieux encore que celui de ton mariage, ou peu importe le beau souvenir que vous avez à y mettre, mais ce que je veux rappeler simplement, c'est qu'il y a une joie qu'on peut y associer, qui nous renvoie à une expérience personnelle et qui devrait à chaque fois constituer pour nous un sujet d'adoration et de volonté exprimée dans la prière, de nous repentir et de progresser en sainteté. Je reviens à ma question du début, comment est-ce que je pourrais faire, moi, qui suis si nul, pour progresser, pour être plus satisfait un peu de moi dans ma sanctification? Une des clés, c'est de valoriser le salut que Dieu m'a offert. Et je voudrais prier pour conclure. Père éternel, nous te glorifions et nous représentons, Seigneur, ce souvenir dans nos églises avec une croix pour nous rappeler que tu es mort et que tu es ressuscité. Nous pouvons, Seigneur, avoir une connaissance du salut intellectuel. Nous pouvons la vivre parce qu'elle nous touche et parce que tu nous as appelés à toi et que tu as fait de nous tes enfants. Mais Seigneur, nous voulons chaque jour nous rappeler de ce salut et le chérir avec la valeur qu'il a. Pas avec la valeur que nous lui donnons, mais avec la valeur qu'il a. La vie d'un innocent, la vie de ton fils Jésus. Et nous te prions, Seigneur, qu'en chacun de nous, tu puisses travailler toute cette semaine au travers de ce psaume pour nous rappeler et nous permettre de valoriser ou de revaloriser à sa juste valeur le salut que tu nous as acquis. Parce que sa valeur ne dépend pas de la bourse ou de la volonté des hommes. Sa valeur, c'est toi qui l'as déterminée et tu l'as manifestée en cela qu'elle constitue toutes les vies que tu rachètes. Gloire à toi, Seigneur. Amen.